Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, notre TGV spécial arrivera à Saint-Malo sans terminus.
Bienvenue de Saint-Malo.
Et cette voix, ce n'est pas n'importe qui, s'il vous plaît, qui nous souhaite la bienvenue dans la cité corsaire, Mike Birch, le cow-boy des mers, une légende vivante de la course au large, navigateur canadien, le vainqueur de la première route du Rhum en 78. Eh bien, son bateau, figurez-vous, connaît une nouvelle vie, une très belle vie qui le propulse dans le futur. Les deux coques de son catamaran ont été recyclées dans un navire unique en son genre et dont on va parler ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. Energy Observer, bateau à hydrogène qui va bientôt partir pour un tour du monde en fabriquant sa propre énergie. Le capitaine de ce bateau fascinant ainsi que le chef d'expédition sont mes deux invités en direct de Saint-Malo, Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse. Bonjour à tous les deux.
Bonjour
et bienvenue, merci d'être là. On va se promener à bord au cours de l'émission grâce à notre reporter Léa Minot. Et vous allez nous expliquer bien sûr comment fonctionne ce bateau dont vous êtes très fiers. Car l'Energy Observer, il a une ambition réjouissante, surtout après cette gifle à la planète infligée par Trump cette semaine. L'ambition de puiser de l'énergie dans la nature sans l'abîmer et de prouver qu'un futur plus propre est possible.
Demain la veille, l'émission qui raconte le futur avec Dorothée Barba sur France Inter.
Mais d'abord, avant d'en venir à ce bateau zéro carbone, quelques mots de cinéma. Car j'espérais que vous alliez me donner tort, chers auditeurs, et j'ai pas été déçue. La semaine dernière, je cherchais des films qui donnent envie de vivre dans le futur. Tous les films d'anticipation, affirmais-je, dépeignent un monde complètement désespérant. Aucun ne donne envie d'aller vivre dans le film. Eh bien si, vous nous avez écrit sur le site de France Inter, sur la page Facebook de l'émission Demain la veille, et sur Twitter pour signaler des films où il ferait bon vivre. Alors d'accord, l'anticipation est en grande majorité pessimiste, mais il y a tout de même ça. Voyons voir si vous reconnaissez ce film qui date de 1976.
J'avais si peur qu'elle ne puisse plus voler.
C'est une colombe blanche, le symbole de la liberté.
Vous connaissez cette espèce? Quelle chance! Elle était en voie d'extinction à cause de la radioactivité. Nous avons perdu tant d'oiseaux. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Je vous en prie, entrez. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu d'hôte à la station.
Merci.
Grâce à ces coupes sensibilisées, je sais que vous avez besoin de repos. De nourriture.
Non, merci, je n'ai pas soif.
Ni faim.
Je vous demande pardon?
Je déchiffre le code des androïdes. Je sens que vos isodons 32 sont très usagés.
Alors je sens que personne dans le public n'a reconnu, il s'agit de L'Âge de Cristal avec Farrah Fawcett, un film délicieusement kitsch qui se déroule au 23e siècle. Il a été suggéré par un certain Ginny sur Twitter. Et bien dans ce film de Michael Anderson, la société tout entière est organisée autour du plaisir de chacun. La société fonctionne sur le plaisir, sauf, petit détail, qu'il faut mourir à 30 ans pour éviter la surpopulation. Et tout le monde porte au poignet, tout le monde porte au poignet un cristal qui indique quand approche l'heure de la fin. Bon, je vous laisse juger ainsi ce futur, vous fait rêver. En tout cas, ça semble convenir à notre auditeur, Ginny, qui est nié. Pour lui, il n'y aura plus de problème de sciatique, et c'est bien l'avantage de L'Âge de Cristal. Amandine, quant à elle, nous suggère un film français sorti 20 ans plus tard, en 96.
Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un ici. Je vais essayer mon programme de langue.
Guten Tag. Verstehen Sie, was ich sage?
No, speak English.
And now, do you understand me now?
Je vous dis que je ne parle pas l'anglais.
Et questo lo capisci?
Non comprendo!
Et là, quand je parle comme ça, vous me comprenez, là?
Vous vous foutez de ma gueule ou quoi?
Ça y est, c'est la bonne. Pardon, madame, c'est quoi la langue qu'on parle, là? C'est de l'allemand, du français, de l'espagnol?
Vous êtes pas complètement si fané, vous? Mais qu'est-ce que c'est que cette fada habillée en carnaval? Et je travaille, moi, hein? Et j'ai pas que ça à faire à répondre à tous les cinglés qui passent, hein?
Je vous remercie, madame.
Extrait de La Belle Verte de Colline Serrault, un film de 96, donc avec une extraterrestre qui débarque sur Terre. Elle découvre l'amabilité des Parisiens. Et oui, on peut voir dans ce film une utopie, hein, puisque les habitants d'une planète lointaine vivent en harmonie avec la nature, dans une société parfaitement égalitaire, mais ça ne se passe pas dans le futur. Alors je sais, je chipote, hein, mais l'habitante de la planète verte en question, elle vient visiter la Terre et elle débarque au XXe siècle, dans un monde qui n'a rien de futuriste. On est bien dans le présent et la belle verte est recalée à notre concours. Kubrick également, 2001, Odyssée de l'espace, serait arrangé dans la catégorie futur souhaitable. Tout du moins à la fin, nous écrit Vincent Lebrun, parce qu'il y a l'hypothèse d'une utopie métaphysique qui résoudrait le mystère de la vie et de la mort. Ouais, sauf que moi, j'ai pas franchement envie d'avoir affaire à HAL 9000, l'ordinateur de bord de 2001 Odyssée de l'espace. Dernière suggestion, celui-là est très facile à deviner.
Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Star Trek, évidemment. Alors j'avoue que je mettais plutôt le capitaine Kirk dans la catégorie série télé, mais bien sûr, ce sont aussi des films. Star Trek, nous écrit Dorian, correspond tout à fait à un futur utopique, puisque la guerre, la maladie et la famine ont disparu. C'est aussi un monde libéré de la pauvreté, dans lequel l'argent n'existe plus du tout. Il n'y a pas du tout d'argent dans Star Trek. Comment dit-on déjà à bord du vaisseau Enterprise, hein, longue vie et prospérité. Merci beaucoup pour vos messages et vous pouvez continuer bien sûr à nous écrire sur la page Facebook de l'émission Demain la veille. Alors la grande différence entre Star Trek et la réalité, c'est que nous n'avons pas encore de convertisseur matière-antimatière pour fabriquer de l'énergie gratuitement et de manière illimitée, pas encore du moins. Mais les deux marins du bateau Energy Observer vont bientôt tester de nouvelles formes de fabrication de l'énergie. On commence peut-être par vous présenter l'un et l'autre, un coureur au large et un explorateur. Victorien Hérussard, vous êtes officier de marine marchande, 10 ans de course au large dans votre CV, une route du Rhum, 4 transats Jacques Vabre. Jérôme Delafosse, vous êtes plongeur de profession, scaphandrier, également photographe et réalisateur de documentaires. Et vous allez tous les deux embarquer le 25 juin, je crois, hein, pour un tour du monde. Est-ce que vous avez hâte de prendre la mer, Jérôme Delafosse?
Ah oui,
c'est peu de le dire.
Oui, je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe. On a tous hâte d'embarquer à bord de ce bateau, voilà, qui est depuis très longtemps en chantier, voilà, et on a, on regarde l'horizon chaque jour en l'imaginant dans les vagues.
Victorien Hérussard, j'ai eu la chance de visiter ce bateau ce matin avec vous ici à Saint-Malo. On sent que vous trépignez.
Oui, complètement. Et puis là, on est bien placé. On est dans la rotonde du Palais du Grand Large, au Festival des Étonnants Voyageurs. Et j'aime bien le nom de l'émission Demain la veille parce que ça fait 5 ans que j'attends ce moment-là, et c'est vraiment demain, dans 3 semaines, on empruntera le chenal du Grand Jardin pour partir de Saint-Malo vers notre première escale à Paris. Et demain la veille, il a fallu faire beaucoup de veille technologique pour mettre au point ce bateau.
Alors on va évidemment entrer dans le détail du fonctionnement. C'est le symbole d'un futur propre et renouvelable. Comment ça marche, Energy Observer?
Alors, il y a eu le premier avion solaire autour du monde, hein, de Bertrand Piccard et André Boschberg. Nous, on est sur un système différent. On est le premier navire hydrogène autour du monde. Il n'y a pas que de l'hydrogène à bord. Avant tout, c'est un navire à propulsion électrique qui n'émet pas de gaz à effet de serre, ni pollution, ni particules fines. Et c'est un bateau qui symbolise la mixité énergétique. Donc, pour cela, on a intégré différentes technologies du solaire, de l'éolien et on a aussi de l'hydrolien. Alors le solaire, il est constitué de 120 mètres carrés de panneaux solaires avec des modules différents, avec différentes technologies. On a notamment une technologie de panneaux de biface. Donc comme son nom l'indique, on a la face qui capte directement les rayons du soleil et par la réverbération de l'eau-mer, on produit un petit peu plus d'énergie.
Voilà, ça a l'air de rien, mais c'est très astucieux. Ça, on prend aussi appui sur la réverbération de la mer pour capter le soleil des deux côtés, tout simplement.
Exactement. Oui. Et vous avez vu à l'intérieur la clarté qu'on a dans la nacelle centrale. On a même une grande verrière solaire sous le roof qui nous permet de capter de l'énergie et en plus de ça, d'avoir une belle luminosité à bord. On a aussi 2 éoliennes à axe vertical. Donc, des éoliennes en forme hélicoïdale qui sont très jolies et très performantes.
Donc,
et
pour l'instant, elles sont pas encore sur place.
On les voilà, elles sont à Nantes, elles sont en essai, en test de soufflerie et en équilibrage. Et donc, elles étaient intégrées pour la mise à l'eau du bateau à Saint-Malo le 14 avril dernier. Et on va les installer à nouveau dans 10 jours. Et on a une aile de traction intelligente développée par un célèbre navigateur très connu dans le monde de la voile, donc Yves Parlier. Et cette aile de traction qui est géante, elle fait 20 mètres carrés d'envergure, 20 mètres d'envergure, 50 mètres carrés. Elle va nous permettre d'augmenter notre vitesse, de réduire nos dépenses énergétiques. Et même lorsque les conditions seront bonnes, ça va nous permettre de fabriquer l'énergie à partir de la traction de l'aile, donc en convertissant nos moteurs électriques en hydrogénérateurs. Donc, trois formes d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, hydrolienne, une motorisation électrique, des batteries et une capacité à produire de l'énergie à partir de l'eau de mer, donc l'hydrogène, lorsque l'on peut l'emmagasiner, donc lorsque l'on est en escale ou au mouillage.
Voilà, le tout pour un tour du monde zéro carbone, qui est aussi un tour du monde médiatique, si j'ose dire. L'Energy Observer se veut un média pour diffuser le savoir, pour diffuser les infos que récolteront ce laboratoire flottant, Jérôme Delafosse.
Oui, alors donc ce bateau, il a vraiment deux programmes. D'un côté, un programme scientifique qui est vraiment de développer cette technologie et dans le but, on va dire, de les transposer à terre dans notre vie de tous les jours. Hein. L'idée, c'est pas forcément faire des bateaux comme Energy Observer, même si on souhaite voir.
On voudrait tous naviguer là-dedans demain, mais c'est pas l'idée. Voilà.
Non, c'est vraiment pour adapter ces technologies à terre. Et puis évidemment, donc pour tester donc toutes ces technologies. L'idée, c'est vraiment de naviguer du nord au sud, hein, puisqu'évidemment, le solaire, ça se teste le long de l'équateur, mais aussi dans le cercle polaire, hein, où évidemment, les rendements sont pas du tout les mêmes. Voilà, et on s'est dit que tant qu'à naviguer, autant devenir une sorte de calypso des temps modernes. Voilà, et c'est là que moi, je suis rentré vraiment dans cette aventure avec Victoria il y a 2 ans maintenant. Voilà, et on a décidé de partir... Donc pour ce tour du monde de 6 années, donc c'est 101 escales, 50 pays visités, pour devenir un ambassadeur de cette transition énergétique, mais beaucoup plus largement cette transition écologique. Vous l'avez relevé tout à l'heure, dans la situation politique actuelle autour des accords de Paris, ça fait sens.
C'est pas
de
le dire.
Et oui, on sera ravis d'aller à New York, illuminé en vert, comme le pont de Brooklyn.
J'allais vous demander comment vous avez réagi, vous, jeudi soir, quand vous avez appris que les États-Unis se retiraient de l'accord de Paris sur le climat.
Bah, c'était pas franchement une grande surprise, hein. C'était un peu annoncé.
Mais ça fiche un coup, quand même.
Bien sûr que ça fiche un coup, parce que on avait déjà vécu les accords de Copenhague qui avaient été un désastre en termes d'accord, hein, où ça avait complètement raté. Là, il y a eu un travail énorme de lobbying qui avait été fait, mais on va dire d'un lobbying positif, pour arriver à convaincre toutes les nations. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on enlève un des piliers de ce château de cartes, on a un petit peu peur que ça s'effondre. Mmh. Voilà. On croise les doigts pour que...
pour que Victorien Russard, pour que le tour du monde ait lieu quand même. J'imagine que ça change rien, évidemment. Coup, Victorien.
Et moi, je me suis demandé si on n'allait pas changer notre route. On a une route pour ce tour du monde de 6 ans. Déjà, il y a une toute première partie, c'est le Tour d'Europe. Hein. Donc, Tour de France 2017, Bassin Méditerranéen en 2018, Europe du Nord en 2019. Et après, on était censé faire cette deuxième phase de tour du monde par les Amériques. Je me suis demandé si on n'allait pas aller dans l'autre sens, mais bien au contraire.
Attendre la fin du mandat de Trump pour accoster aux États-Unis.
Oui, non. Au contraire, faut y aller justement.
Il faut y aller. Allez, on continue à parler de ce bateau Energy Observer et de son tour du monde pour recenser les énergies propres de demain. On va évoquer bien sûr les avantages et les inconvénients de l'hydrogène comme énergie de demain. Après un petit plaisir, tenez, voici Supertramp sur Inter. Joyfully, oh, playfully, watching me. The Logical Song avec Supertramp. C'est Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de l'émission, préparée par Karen Deshaies et Marie-Hélène Fauquet. Et on est toujours en direct de Saint-Malo.
Le futur, le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter.
8 mois après avoir quitté Brest, le commandant Charcot a retrouvé son port d'attache ayant effectué le tour du monde avant de rapatrier les 6 membres des expéditions polaires françaises qui ont séjourné 1 an en Terre Adélie. L'amiral Robert, préfet maritime, André Lyotard et Paul-Émile Victor ont accueilli les explorateurs qui ont mené à bien leur mission scientifique au cours des 12 mois d'isolement passés sur le pack antarctique.
Les actualités françaises en 1951, alors 66 ans plus tard, Énergie, Observer, Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse, vous vous apprêtez à vous élancer pour un autre périple. Votre bateau se veut le symbole, je le disais, de la transition écologique. Départ du Tour du Monde prévu le 25 juin de Saint-Malo. Est-ce que vous voyez un lien de parenté entre les expéditions comme celle de Paul-Émile Victor et la vôtre ?
Alors oui, Charcot, Paul-Émile Victor, bien évidemment. Mais avant ça, à Saint-Malo, c'était beaucoup d'explorateurs, de découvreurs.
Voilà, le lien, il est mal loin, d'abord.
Il est mal loin, on est mal loin tous les deux, on est très fiers de l'être. Et voilà, on va dire que la seule différence, c'est qu'avant, on explorait souvent beaucoup pour conquérir des territoires et s'approprier les richesses des autres. Nous, c'est vrai qu'on a un autre esprit, on veut aller à la recherche des solutions pour un futur plus propre et surtout, on va dire, de partager ces solutions avec le plus grand nombre. Voilà, c'est une nuance quand même majeure dans la manière d'explorer, mais on est évidemment très fiers de reprendre ce flambeau-là. En tout cas, on a l'ambition de le reprendre parce qu'on n'est pas encore parti. Voilà.
J'ai vu que votre bateau était amarré à un quai qui s'appelle le Pourquoi pas, quand même.
Exactement.
Victorien Hérussard, ça aussi. On l'appelle beaucoup le Solar Impulse des mers. C'est pertinent comme comparaison, ce tour du monde. On se souvient de Bertrand Piccard l'an dernier qui a bouclé un tour du monde en avion solaire avec le Solar Impulse. La filiation, elle vous semble pertinente ?
Oui, je pense que c'est pertinent parce que Bertrand Piccard a montré que l'impossible était possible en faisant ce tour du monde solaire en avion. Et donc, nous, c'est sur une autre forme de technologie, mais on est dans la catégorie des pionniers. Donc, il y a vraiment un rapprochement.
Alors, je le disais, les deux coques de ce catamaran sont issues du recyclage. Elles viennent du bateau de Mike Birch, vainqueur de la Route du Rhum en 78. C'est un grand nom de la course au large. C'est impressionnant pour vous, j'imagine, Victorien Hérussard.
Ah oui, tout à fait. Il a remporté sa première Route du Rhum en 78. Je suis né en 79. Moi, j'ai fait la mienne, ma première Route du Rhum. J'avais 25 ans et alors je lui ai raconté ça hier. Ce qui est marrant, c'est que je faisais partie des jeunes navigants de Malouin. Mmh. Et du coup, il y avait un petit tirage au sort pour accompagner les différents skippers de la sortie du port jusqu'à la pointe du Gouin. Et j'ai été tiré au sort pour accompagner Mike Birch. Donc j'ai un lien avec lui qui me poursuit. Parce
c'est le
que...
destin.
Exactement.
Mmh. Allez, on va faire une première visite guidée de ce bateau grâce à notre reporter Léa Minot. Vous l'avez accueilli hier sur le bateau victorien avec Mike Birch, justement. Mais il fallait d'abord trouver le bateau.
Messieurs,
bonjour.
L'Énergie Explorer, vous savez où il est ?
Vous êtes sûr qu'il est encore à Saint-Malo ?
Dans les bassins là-bas, vers la vieille ville. Vous y êtes allé là-bas ?
Non.
Et c'est dans les bassins qui sont là-bas, je pense.
Oui.
Merci.
Ah, bah le
voilà.
Ah,
il est où ?
Il est là, il est là.
Ah, bah dis donc, bonjour.
Quand on arrive, sur la droite, il y a le bateau qui s'appelle l'Energy Observer, qui semble immense. Bonjour.
Pour ceux qui veulent monter à bord, vous allez mettre des chaussons. Et je crois que les Anglais, ils ont même une tradition d'y aller pieds nus. Hein. Faut pas.
Barefoot, yeah.
Attention les pieds.
I know I am.
Okay. On descend sur le trampoline. Ça va ?
Yeah, this is a bit like the original trip.
Ça ressemble au trampoline original.
Là, on est sur l'ancien bateau de Mike Birch qui, à l'époque, s'appelait Formule Tag. Et ce qui est incroyable, c'est que Tag, ça voulait dire technique d'avant-garde. C'était la mère de tous les bateaux, de par sa technologie qui différait des autres.
Donc c'était un bateau du futur déjà dans les années 80. Et...
Exactement.
Et ça va être aussi le bateau du futur aujourd'hui.
C'est un bateau qui ne veut pas mourir.
Est-ce qu'il ressemble au bateau que vous avez connu ?
Well, yes. A lot of changes to the boat, and it was a well-built boat from the beginning. Very strong. It lasted.
C'est un bateau qui a été très bien construit depuis le début, et maintenant il a duré. Qu'est-ce que vous reconnaissez de votre bateau?
Well, je pense the beams.
Les bras de liaison.
Nothing else.
Mais rien d'autre?
No, rien. My head is slow.
Ma tête va doucement.
Well, we had it, did it in 1982-83 in Canada.
On l'a construit en 1982-1983 au Canada.
I remember doing splitting the hull and making it bigger.
Yes.
And then I think they did it again and made it even bigger.
On a dû le séparer et le rendre encore plus grand, et puis petit à petit, il est devenu de plus en plus grand. Oui. Quelle était la taille originale du bateau?
80 feet.
80 pieds, ça fait combien ça en mètres?
23 mètres, je crois.
À peu près 23 mètres.
Ouais.
Et maintenant, il fait combien?
30.
30 mètres.
30 mètres. It's still a working boat.
C'est toujours un bateau qui continue à vivre?
Oui.
And here it's,
qu'est-ce que c'est ça?
C'est H2, hydrogène.
H2.
It's the fuel cell.
Et ben, à l'intérieur, il y a la pile à combustible, donc justement qui convertit l'hydrogène en électricité.
Vous êtes vachement costaud, hein?
Faut faire du yoga.
Yeah, faut faire.
Voilà, après des péripéties, on y est. Dans l'endroit le plus petit du bateau, je pense, le plus inconfortable. C'est quoi?
La fameuse pile à combustible, en anglais fuel cell. C'est un système qui permet de convertir donc l'hydrogène qu'on a stocké en électricité et en chaleur.
Ça, c'est le son des membranes qui transforment l'hydrogène. Donc vous avez un système de pile à combustible qui a été fait spécialement pour vous, en gros, c'est ça?
Il y a eu l'innovation pour à peu près tout, hein, pour ce bateau. Donc c'est fantastique de savoir que cette conversion électrochimique, par son architecture, n'émet pas de gaz à effet de serre et aussi n'émet pas de particules fines. C'est la troisième révolution industrielle qui est en train de s'installer.
Alors là, il faut ressortir. Oh, ça va être aussi galère que... Hop. C'est là où vous dormiez?
I don't know. Maybe.
Il a trop changé, le bateau. Vous ne le reconnaissez plus, là.
Well, that's interesting, eh?
Je prends Mike Birch par la main et on l'amène à la proue du bateau. Là, on est juste au-dessus de l'eau. Il y a un petit filet qui nous retient. Attention. Là, on monte sur le toit du bateau avec plein de petits panneaux solaires.
These are cool.
Ils sont frais.
Yeah.
Il y a deux sortes de panneaux solaires. Donc là, Mike a un pied sur les panneaux solaires qui sont en verre et l'autre pied droit qui sont sur les panneaux solaires qui sont en polycarbonate.
Et donc là, on voit la timonerie. C'est là qu'on pilotera le bateau. Donc ça, c'est aussi nouveau.
Voilà, reportage de Léa Minot, on entendra la suite un peu plus tard. On est toujours en direct de Saint-Malo, festival étonnant voyageurs, avec les deux navigateurs qui vont s'élancer bientôt pour ce tour du monde. Et je crois qu'on a une question dans le public pour nos invités. Bonsoir, bonsoir,
oui,
monsieur.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. En fait, j'ai deux questions. J'aurais voulu avoir une explication sur le montage financier, d'une part. Et d'autre part, j'aurais voulu savoir si, comme j'ai vu le film hier, Solar Impulse, s'il va y avoir un film à la suite de cette expédition. Merci.
Victorien et Russard, qui paye pour ce bateau hors de prix d'ailleurs?
Alors, on a eu la chance. Alors au début, c'était une utopie ce bateau, donc c'est difficile de trouver des sponsors. Mais on a eu deux grands chefs d'entreprise, Sébastien Bazin et Daniel Anthony, qui l'un est le président directeur général du groupe Accor Hôtel et l'autre le directeur général de Télème Assurance, qui nous ont fait confiance.
Ça a été compliqué de les convaincre, les sponsors?
Non, je les connaissais un petit peu, mais c'était compliqué.
Ça, c'est
quand
le passif
même
du coureur au large qui aide un peu.
Voilà. Mais ça a été compliqué de trouver de l'argent. Mais en fait, à force de constituer une équipe, de trouver des partenaires de recherche et développement cohérents, comme le CEA Litten, un des tout premiers grands centres de recherche et développement de France, à force de trouver des partenaires techniques, opérationnels.
Nicolas Hulot, qui est le parrain du bateau.
Exactement,
aussi.
Qui était le président pour la Fondation de la Nature et l'Homme, et là maintenant qui est devenu ministre d'État.
Ça peut aider.
Donc, j'ai envie de dire que l'intérêt suscite l'intérêt, et il y a une confiance qui s'installe. Et on a de plus en plus d'entreprises à nous rejoindre. Là, on vient d'avoir Air Liquide, Delta d'Or, etc.
5 millions d'euros, je crois, le budget total?
Oui, exactement. Et la moitié a été exclusivement dans le financement de la recherche et développement. Et puis, il faut savoir que si on avait construit ce bateau, ça nous aurait coûté environ 30% plus cher.
Voilà, donc vous avez recyclé le bateau de Mike Birch et vous avez ainsi économisé environ 2 millions.
Oui, facile, ouais.
Y aura-t-il un film sur cette expédition, Jérôme Delafosse?
Alors, j'évoquais tout à l'heure une calypso des temps modernes, donc ouais. Ça va pas être un film, mais des séries documentaires qui seront, qui vont commencer à être tournées très bientôt, qui seront en diffusion, je peux pas exactement encore vous dire où, mais l'année prochaine, en 2018. Et puis, au-delà de ça, on est un bateau innovant, donc on souhaite aussi pouvoir, on va dire, sensibiliser et faire rêver, en divertissant, on va dire, au sens noble du terme. Voilà, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire passer un message et montrer qu'un futur plus propre est possible, d'être inspirant. On veut un peu laisser derrière nous le constat négatif et culpabilisant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus inspirant et qui donne envie aux gens d'aller vers un monde et surtout un comportement aussi différent.
Vous allez vous inspirer peut-être de la communication de Thomas Pesquet dans l'espace, non ?
On rêverait d'être aussi fort que lui. Oui, mais on va dire qu'on va être pour...
quelque chose de ludique, de grand public.
C'est très grand public. C'est vraiment ce qu'on veut montrer, c'est comment une équipe va partir autour du monde à la rencontre en fait de tous les gens qui innovent pour la planète. Montrer que partout, chaque matin, il y a des gens qui se lèvent en se disant qu'ils peuvent apporter leur petite pierre à l'édifice. Voilà, comme nous, on souhaite le faire d'une certaine manière.
Allez, on va continuer la visite à bord dans un instant. Et puis, une romancière va passer nous voir en fin d'émission. Lola Lafont, elle a participé au prix Ouest France Étonnant Voyageur. Elle va nous livrer tout à l'heure sa vision du futur, puisque chaque semaine, dans Demain la veille, je demande à des auteurs d'imaginer à quoi ressemblera le monde quand on sera grand. Le groupe français Paradis, c'était Recto Verso sur France Inter. Il est 17h35. On est en direct du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo avec le capitaine de l'énergie Observer et le chef d'exposition. Ils vont bientôt partir pour un tour du monde zéro carbone.
Marty ! Il faut que tu repartes avec moi !
Où ça ?
Mais vers le futur !
Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites, Doc ?
Je fais le plein. Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends ?
Hé, hey, Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
La route ? Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Vous souvenez-vous comment Doc faisait le plein dans Retour vers le futur ? Il se servait dans une poubelle, bien sûr. Alors j'espère que vous avez prévu de trouver ceux qui vont inventer ça pendant votre tour du monde, Jérôme Delafosse, à bord de ce bateau fascinant et qui fabrique son propre hydrogène. Alors puisque c'est un bateau futuriste, en quelle année est-on quand on monte à bord ?
Alors on parle d'un bateau futuriste, mais c'est sans doute pas un futur si lointain que ça. Mm-hmm. Et le meilleur exemple, on va dire, pour imaginer quand pour être ce futur, c'est de se rappeler en 1903 à Londres, à New York, le problème c'était pas le carbone dans les villes, mais bien le crottin de cheval. Il y avait 800 000 chevaux à Londres. La voiture donc avec un moteur thermique est arrivée et 10 ans plus tard, il n'y avait plus un cheval en ville ou très peu. Et c'est le meilleur exemple finalement de voir que les choses peuvent changer extrêmement vite quand toute une société y croit et s'engage dans cette nouvelle aventure.
En tout cas là, on se projette quoi, dans 10 ans à peu près ?
On espère.
Il faut en venir à un petit peu dans le détail à l'hydrogène victorien et Russard. Comment ce bateau va-t-il fabriquer son propre hydrogène à partir de l'eau de mer ?
Alors, il y a toute une chaîne de production intégrée donc, qui a été développée par le CEA Liten. C'est une trentaine d'ingénieurs et techniciens qui travaillent dessus depuis environ 2 ans. Mais c'est aussi le fruit de 20 ans de recherche et développement donc à Grenoble. Et donc, sont intégrés dans le bateau, en premier lieu, un désalinisateur. Donc on prélève l'eau de mer, hein. Ensuite un déioniseur, on rend l'eau pure. Ensuite on a un électrolyseur qui casse la molécule d'eau. Et ensuite on comprime cet hydrogène à 350 bars, on les stocke dans des réservoirs à hydrogène. Et une fois stocké, pour pallier à l'intermittence énergétique, donc c'est un vecteur énergétique, on met en marche notre pile à combustible qui produit de l'électricité à partir d'hydrogène.
Voilà, l'énergie éolienne et photovoltaïque sont intermittentes hein, par définition, parce qu'elles dépendent du soleil et du vent. Donc l'intérêt, c'est de transformer les surplus d'électricité en hydrogène, ça permet de les stocker, mais l'hydrogène prend beaucoup de place. C'est un problème.
Oui, alors c'est vrai que c'est l'atome le plus léger, c'est l'atome qui est le plus présent dans l'univers. Elle a un fort pouvoir énergétique, hein, c'est à peu près 3 fois plus hein, que l'essence. En revanche, elle a une masse volumétrique très faible. Et du coup, il faut le comprimer et le comprimer à très haute pression. Donc l'inconvénient, c'est qu'on le retrouve pas à l'état naturel. Donc on est obligé de dépenser de l'énergie pour le fabriquer, soit de façon, soit grâce au vaporeformage, donc à partir du gaz naturel, ou à partir de l'électrolyse, comme nous on le fait, et de façon décarbonée.
Voilà, l'hydrogène qui est produit aujourd'hui hein, provient à 95% de produits pétroliers via une technique qui est très peu écolo, hein, qui consiste à casser les molécules de méthane. Donc l'enjeu de demain, c'est de fabriquer de manière propre, comme vous allez le faire, de l'hydrogène. Vous me dites si je me trompe, mais une voiture à hydrogène, Victorien Russard, ça ne rejette que de l'eau, c'est silencieux, et ça se recharge instantanément ou presque. Pourquoi est-ce qu'on ne roule pas déjà tous à l'hydrogène ?
C'est le réseau. Il faut aller s'alimenter. Et pour l'instant, en Europe, il y a très peu de stations de recharge.
Alors, comme
vous le dites, c'est aussi rapide que si on fait le plein d'essence. Donc, tout est en
c'est
train.
Pas comme brancher une voiture électrique, quoi. Ça prend pas la nuit pour se recharger.
Exactement. Donc, tout est en train de se mettre en place. Il y a une alliance d'industriels qui s'est créée, l'Hydrogen Council. Et l'idée, c'est de baisser les coûts de production. Donc, pour l'instant, l'hydrogène est moins compétitif. Elle est beaucoup plus écologique hein, que les énergies fossiles.
Elle est chère. Elle est encore très chère.
Exactement. Mais le prix du baril du pétrole ayant baissé, ben il faut essayer de trouver des solutions pour baisser le coût de production de l'hydrogène.
Alors quand je dis qu'on pourrait, imaginer rouler déjà tous à l'hydrogène, quelle est la part de responsabilité des grands groupes qui sont eux attachés aux énergies fossiles dans ce délai, dans ce retard connu par l'hydrogène aujourd'hui ?
Je pense qu'ils sont tous en train de s'y mettre.
J'entendais
Jérémy Rifkin qui parlait de la première révolution industrielle qui était le charbon, la deuxième c'est le pétrole, la troisième révolution industrielle c'est l'hydrogène. Mais ça va encore prendre quelques années et nous on va essayer d'être un accélérateur.
Vous l'avez l'impression ?
L'intéressant c'est que ça a été complètement abandonné en 2005 l'hydrogène. La pile à combustible, ça existe depuis le 19e siècle. Le vrai problème, c'était de produire cet hydrogène, le coût de production notamment. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ça a été stoppé en 2005 et on sent que tout le monde s'y remet. Et évidemment, à Davos, ce qu'évoquait Victorien, il y a 13 groupes multinationales qui se sont engagés pour l'hydrogène dans un consortium. Voilà, ça donne bon espoir quand même de voir les choses changer. Et pour juste reprendre quelque chose, c'est volumétrique, mais nous, à bord du bateau, c'est un véritable avantage par rapport à un parc batterie, parce qu'on serait beaucoup plus lourd. On aurait l'équivalent de 30 tonnes de batterie si on voulait avoir la même puissance en hydrogène. Ici, on va avoir un système qui pèse 3 tonnes, donc il va nous permettre d'aller évidemment beaucoup plus vite.
D'ailleurs, j'ai été frappée en visitant le bateau. Le poids est quelque chose de très important. Chaque partie du bateau a été conçue pour peser le moins lourd possible.
Oui, bah c'est toujours le kilogramme embarqué, la puissance développée, mais c'est comme, on va dire, nos ancêtres les corsaires, qui avaient des bateaux avec des mâts, des voiles, 1000 voiles pour pouvoir aller plus vite, pour échapper à leur ennemi ou le rattraper. Bah nous, c'est pareil. Hein, on a besoin vraiment de pouvoir être le plus léger possible.
Pour dépenser le moins d'énergie. Voilà. C'est sans doute une boutade, mais moi, je pense que vous me parlez d'un navire 100% écolo, je ne peux pas m'empêcher de penser que le plus écolo, c'est encore le bateau à voile.
Oui, bien sûr, mais c'est trop facile. Si, j'ai envie de dire. Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être un démonstrateur expérimental. C'est montrer que nous, si on est capable de faire un tour du monde avec ces technologies intégrées dans notre bateau, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut, chaque bâtiment peut devenir autonome en utilisant ce mix énergétique et l'hydrogène en vecteur énergétique.
Et il a fallu couper le mât et enlever les voiles de Mike Birch.
Exactement.
C'est vraiment un projet qui va bien au-delà du bateau bien lui-même. Sûr.
Allez, on va retourner à bord grâce à Léa Minot et son micro avec Mike Birch, le cow-boy des mers, et avec vous, Victorien Hérussard, reportage.
Là, je rentre à l'intérieur du bateau. Là, il fait vraiment chaud. Hein. Vous allez avoir la clim ou pas?
Ouais. En fait, là, c'est vraiment la partie que Mike ne connaît pas du tout. Cette nacelle centrale qui est faite pour accueillir l'équipage, elle n'existait pas. C'est là que vivra l'équipage pendant le tour du monde de 6 ans.
Et vous avez vu cette magnifique cuisine. En fait, regardez, toutes les formes sont arrondies.
Vous ne pouvez pas vous cogner la tête.
C'était de symboliser le futur à l'intérieur. Donc, on se croirait un peu dans Star Wars.
C'est assez grand quand même.
Ouais, il y a à peu près 40 mètres carrés là, dans le carré central.
Qui est encore un peu en travaux, il y a des bouts de plastique un peu partout.
Oui, alors c'est pour protéger en fait. Et on veut éviter de le salir parce qu'il y a encore un petit peu de câblage électrique à faire.
Il y a encore des câbles partout, avec deux cabines sur la gauche et sur la droite. C'est là où les gens vont dormir.
Ouais, on a 6 cabines en fait. Le bateau est fait pour naviguer à 8.
Où est-ce qu'elle est votre couchette?
Ah, ça sera celle-ci. C'est assez confortable, hein.
Ah oui, mais là pour l'instant ça n'a pas l'air très confortable. Il n'y a même pas de matelas.
Alors tous les sols, les moquettes vont être installés dans 10 jours.
Ah, il va y avoir de la moquette.
Oui.
Ça va être le grand luxe.
Ah, il faut quand même que ce soit un bateau moderne et confort.
Je dirais que ça sent quand même un peu le neuf tout ça.
Ça sent le neuf, hein. Tout est neuf.
Tout est neuf sauf le bateau.
Sauf les coques et les bras de liaison.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce bateau?
Well, you know, it doesn't have the mast on it anymore.
Bah oui, il n'y a plus de mât.
C'est sur ce bras de liaison là, oui, qui était greffé le mât qui devait faire une quarantaine de mètres à l'époque.
Et ça, vous n'avez pas pu l'enlever?
Non, on ne peut pas. Alors... C'est structurel en fait.
Alors, il faut enjamber ce qui reste du vieux bateau.
Le bras de liaison. Non, tout à fait. Et là, on a encore 4 cabines. À droite, vous avez une toute petite cabine. On les appelle les cabines cercueil, celles-là.
Mais il y a des gens qui vont dormir là.
Oui, oui. Vous voulez que j'essaie? Je vais vous montrer.
Bah,
regardez. C'est une cabine pour 1m80.
Mais qui est-ce qui aura la king size et qui est-ce qui aura cette cabine de nain?
C'est une bonne question, ça. On n'a pas fait encore la répartition.
Vous allez tirer au sort.
Moi, je vais me prendre la cabine près du poste de pilotage.
Quand même, il y a quelqu'un qui va faire la veille, ça ne sera pas tout automatique?
Ah non, 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 jamais. La veille est obligatoire en mer. Mais il n'est pas impossible qu'avec l'évolution du bateau, dans 10, 15, 20, 30 ans, les bateaux soient entièrement automatisés. Et il est fort probable qu'il n'y ait plus de veille.
C'est qu'est-ce qu'elle dit, l'alarme, là?
C'est une alarme qui me prévient que je viens d'arrêter les batteries. Il n'y aura plus d'électricité à bord.
Quand on se tait là, on n'entend pas le bruit des gréements qui s'agitent, on entend la tour de l'ordinateur qui chauffe.
Ouais,
est-ce que c'est ça le son du bateau du futur?
Oui, tout à fait. Ouais. Ça sera les petits ventilos qui refroidissent les systèmes électriques. Par contre, vous ne verrez jamais au sol de fuite d'huile, de gasoil. Zéro CO2, no pollution.
C'est émouvant hein, d'entendre Mike Birch remonter sur son bateau. Merci beaucoup à Léa Minot et j'en profite pour signaler le livre de Mike Birch, paru aux éditions Artaud, « J'ai chevauché les océans », ouvrage recommandé d'ailleurs par notre reporter Léa Minot. Ce monsieur de 85 ans a tout simplement eu une vie incroyable. Jérôme Delafosse, il y a la clim sur votre bateau?
Oui, mais en fait, on produit notre clim avec notre électricité de bord, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Il faut. Il faut rafraîchir, refroidir les ordinateurs et les corps aussi un petit peu de temps en temps.
Ouais, c'est intéressant, en tout cas, de se dire qu'on fait un tour du monde dans des conditions de confort. qui sont comparables à celles que peuvent connaître les gens sur la terre ferme.
Oui, parce qu'au-delà de la blague, ce qui est très important, c'est de montrer aujourd'hui que l'écologie, c'est plus une utopie comme avant. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut vivre en étant écolo, mais sans vivre comme un ermite au fond d'une forêt. Voilà. C'est très important de voir que la conception même de l'écologie a changé. On peut réduire notre impact sans réduire notre confort.
On entendait sonner une alarme à l'instant. Quel est le pépin technique que vous redoutez le plus sur cette expédition ?
Oh ben là, il peut y en avoir pas mal. Hein. C'est un bateau pionnier comme ça. Ça reste une grande aventure. On va naviguer vers l'inconnu. Donc même si on sait un petit peu voilà ce qui va se passer, on est prêt à faire face à toutes les situations. Victorien, t'as une petite idée ?
Ah, bien évidemment, il y a un peu de tension. Hein, on a peur du blackout, ne plus avoir d'énergie. C'est quand même on vise l'autonomie énergétique, toutes les technologies intégrées, on les a pas achetées sur un placard, tout a été développé, il y a que l'innovation, donc bien évidemment, il va falloir fiabiliser ce bateau.
Et on appelle qui si on a un pépin ?
On a un système intéressant. Déjà, on aura des ingénieurs système du CEA qui viendront naviguer à bord, et en plus de ça, il y a une possibilité de prendre la main sur le bateau à distance.
Vous savez que le nom du festival, hein, Étonnant Voyageur, est emprunté à un poème de Baudelaire, Le Voyage. Étonnant Voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. On est en direct depuis le Palais du Grand Large. Et moi, je serais assez partante pour faire l'émission ici toutes les semaines. Hein. La vue sur la mer et sur les remparts de la cité corsaire est sublime. Alexandre Martin, Élodie Royer et Gilles Manet à la technique. Voici Nora Jones sur France Inter.
It's a wonderful time for love. It's a wonderful time for love. The sun shines down from above. It's a wonderful time for love. And you think you have all you've dreamed of, with all the gray blue skies just ain't enough. When the sun goes down, can we sleep safe and sound? A wonderful time. Time for dealing a different game, the one where we don't have to place the blame.
En direct de Saint-Malo à l'occasion du festival Étonnant Voyageur, festival de littérature et de cinéma. L'équipage de l'énergie Observer sont toujours là, le navire à hydrogène, Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse. Et j'accueille à présent une nouvelle invitée.
Demain la veille, avec Dorothée Barba. Raconte-moi le futur.
Bonjour Lola Lafon.
Bonjour.
Merci d'être là, bienvenue. Vous êtes romancière. On se souvient de ce magnifique roman qui était consacré à Nadia Comaneci, la petite communiste qui ne souriait jamais chez Actes Sud. Vous avez obtenu le prix ici Ouest France Étonnant Voyageur en 2014. Et vous avez participé cette année à la remise du prix 2017. C'est Mariam Majidi qui a été récompensée, auteur d'un roman intitulé Marx et la poupée, édition Le Nouvel Attila. Alors j'ai une question pour vous, Lola Lafon. Question traditionnelle dans cette émission. À quoi ressemblera le monde quand on sera grand, à votre avis ?
Alors, j'ai réfléchi à cette question et je vais peut-être faire une réponse. Je sais pas. Moi, ce que je souhaite quand on sera grand, c'est que le futur soit pas comme un spectacle où il y ait des acteurs et des spectateurs qui peuvent pas participer au futur qu'on décrit. C'est ça que je souhaite. C'est un futur où tout le monde soit acteur. Et je vous dis ça en particulier parce que quand on est écrivain, parfois on est envoyé On n'est pas toujours dans des festivals, on n'est pas toujours derrière sa table. Parfois, on est envoyé dans des lycées pour parler de littérature. Et puis parfois, on est envoyé dans des lycées dits, avec des guillemets, difficiles. Dans des endroits où les gens ont 14 ans, 15 ans. Et puis on arrive comme ça, tout plein de choses à dire. Et puis on vous dit, alors eux, ils sont mal partis, quoi. Eh ben, moi, je souhaite qu'on puisse plus jamais dire ça de quelqu'un qui a tout son futur devant lui, qu'on puisse plus jamais dire ça de quelqu'un qui a 14 ans, et que voilà, que les gens de 14 ans, il y a un futur. Et donc, voilà ce que je souhaite.
Vous avez tendance à y croire, à ce futur-là. Oui, on applaudit Lola Lafont, bien sûr. Est-ce que vous y croyez à ce futur-là ?
Ouais.
Ouais.
Oui, j'ai dit, ah bah oui, parce que sinon, j'écrirais pas de roman, parce que je pense que la littérature, c'est aussi construire un futur pour des lecteurs jeunes aussi, enfin oui.
La littérature sauvera le monde.
Ouais.
On va rester sur cette touche optimiste. Avant le départ, Victorien Hérussard et Jérôme de la Fosse, un petit mot. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours de départ de ce tour du monde, Jérôme de la Fosse ?
Moi, je suis vraiment impatient. Quoi. Je suis impatient et je suis surtout très touché par ce qui se passe en ce moment politiquement, on va dire. Voilà. Donc, moi, ce serait plutôt un mot que j'aurais envie de dire.
Non, c'est pas. On n'est pas tout de suite dans le bocal. Un mot de conclusion sur cette expédition, le bocal de demain la veille dans lequel on est.
Moi, je suis très impatient. On est des hommes d'action. Là, on est dans un chantier depuis des années. On a juste envie de prendre la mer et de pouvoir sortir des caméras, plonger, vivre, sentir l'air du large.
Victorien Hérussard, on rappelle que ce bateau va fonctionner grâce à l'éolien solaire et avec cette aile de traction intelligente qui fabrique de l'hydrogène. Un petit mot de conclusion sur cette expédition ?
Eh bien, écoutez, j'ai hâte qu'il y ait à nouveau des entreprises à intégrer. On a vraiment besoin d'aide pour financer ce projet à dimension internationale. Donc, il y a encore quelques petites places pour mettre son logo sur le bateau.
Vous savez que Jules Verne évoquait déjà l'hydrogène comme énergie de demain dans l'île mystérieuse en 1875, hein, comme quoi demain, c'est demain depuis un moment, hein, finalement. Il est temps qu'il arrive, ce demain.
Oui, exactement.
Et si vous voulez une petite place sur la coque du bateau, vous savez à qui vous adressez. L'heure file, il est temps d'ouvrir le bocal de demain la veille. On met sous cloche chaque semaine des trucs qui vont disparaître dans un futur plus ou moins proche, que ce soit d'ailleurs une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, tous ces trucs qui n'existeront plus demain. Et c'est donc à vous de jouer. Lola Lafont, que déposez-vous dans le bocal ?
Alors, je pense que je ne vais pas vous faire plaisir.
Elle s'adresse au navigateur. Ouais.
Non, ou alors, vous allez trouver ça complètement dingue. Moi, je souhaite vraiment que les GPS disparaissent pour toujours. Parce que l'idée de ne plus pouvoir se perdre, je trouve ça hyper triste.
J'ai peur que la technologie n'aille pas dans votre sens. Je sais,
mais on peut rêver.
La sécurité.
La voiture de demain est autonome, Lola Lafont, elle n'aura pas de volant, donc si elle n'a pas de GPS, c'est
bon,
le drame.
Bon, alors, disons juste sur les téléphones, ok ?
D'accord.
On peut limiter à ça, parce que l'idée de plus demander son chemin à quelqu'un, je trouve ça hyper triste, et l'idée aussi de plus pouvoir lever la tête de son téléphone pour croiser un regard et dire « excusez-moi, je suis où ?» Et puis, ça se trouve, on boit un café, ou on se rencontre, ou... Voilà. Et il y a vraiment un truc de trop savoir où on va. Alors, c'est peut-être une déformation d'auteur, mais moi, j'ai envie de ne pas savoir toujours où je vais, en fait.
Donc, il va sans dire que vous n'avez pas de smartphone, Lola Lafont.
Bah voilà.
Non, c'est vrai ?
Oui. Pour l'instant, moi, je...
C'est à vous de jouer, Victorien Hérussard. Que déposez-vous dans notre bocal ?
Moi, vous allez peut-être rire, là, par contre, parce que j'ai entendu dire que le coton-tige allait disparaître.
Et dur. Que c'était...
Ça pèse rien à bord, hein, ceci non, dit. On peut en emmener des cotons-tiges.
Mais c'est ce qu'on retrouvait le plus sur les plages, donc ça dégradait notre environnement. Et paraît-il que ça va être remplacé. Donc, comment j'aime bien la sensation, je ne voudrais pas que ça disparaisse.
Vous placez le coton-tige. Je vous demande, qu'est-ce qui va disparaître dans le futur ? Vous me dites le coton-tige.
Mais il paraît.
Mais
il paraît.
Très bien, je le note.
J'ai vu ça.
Jérôme de la Fosse.
Non, moi, très... Juste par expérience, c'est vraiment le plastique, en tout cas celui qu'on retrouve dans les océans. Voilà, je mettrais bien dans le bocal avec un double couvercle dessus, qu'on se retrouve plus avec des côtes aux abysses, avec des monceaux de plastique dont on ne sait pas se débarrasser.
Alors comment fabriquera-t-on demain objets du quotidien ?
Moi, je pense qu'il y a plein d'autres moyens de le faire. Je parle vraiment du plastique, celui qu'on retrouve principalement dans la mer, c'est-à-dire des sacs en plastique, c'est-à-dire toutes ces choses un petit peu inutiles qu'on va jeter. Voilà. Donc et puis autrement trouver des solutions pour pouvoir le recycler. Mais il faut arrêter cette débauche inutile, voilà, de notamment vraiment de sacs en plastique.
Alors, un GPS, un coton-tige et un sac plastique, le tout déposé dans le bocal et conservé comme relique du temps présent. Alors j'aimerais... Oui, voilà, le générique, c'est mieux. J'aimerais profiter des quelques secondes qui nous restent pour souhaiter un très bel anniversaire à Oui Demain, c'est notre partenaire. Je montre la revue au public ici à Saint-Malo. Très belle revue qui est née il y a 5 ans. Le numéro anniversaire est disponible depuis cette semaine. Il y a des sujets passionnants et notamment un entretien avec Bertrand Piccard, qui a bouclé son tour du monde en avion solaire l'an dernier. Il raconte le monde en 2030 dans cette revue illustrée par Enki Bilal. Illustration originale que je montre à mes amis à Saint-Malo. Oui Demain à retrouver en kiosque et en librairie. Un grand merci à tous les trois d'être passés nous voir, Lola Lafont, Victorien Hérussard et Jérôme Delafosse. Le tour du monde s'élance donc le 25 juin au départ de Saint-Malo, ça commence ici.
Oui, c'est ça.
Avec une inauguration à Paris, je crois, début juillet.
Le 5 juillet, voilà. Au port du Gros Caillou, près du pont des Invalides.
Et je précise aussi que le festival Étonnant Voyageur se poursuit jusqu'à demain soir, avec notamment demain matin une rencontre avec Christiane Taubira, Patrick Chamoiseau et Michel Lebris. Ce sera demain à 10h. Également un café littéraire avec Michel Serres demain à 14h. Et beaucoup, beaucoup d'autres rendez-vous. Merci à vous qui êtes venus nombreux à Saint-Malo. Plus fort. Merci à tous. Jérôme Delafosse, quelques secondes,
j'ai
allez-y.
Une petite conclusion, notre président de la République, Emmanuel Macron, donc, a invité tous les scientifiques américains à venir, à nous rejoindre dans une forme d'asile scientifique. Mmh. Voilà, on en fait autant avec Victorien, voilà, on invite tous ces scientifiques à venir naviguer à bord d'Énergie Observer pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique. Make our planet great again.
Ah, voilà, et c'est un joli message à Trump. Tenez d'ailleurs une mini-question pour terminer. Vous allez passer les 6 ans sur le bateau ? 6 ans à bord, vous
non,
allez rester à bord.
On va rentrer un peu de temps en temps. Quand même. On ne veut pas être comme les marins d'avant qui retrouvaient, qui avaient beaucoup d'enfants par rapport au temps que passait.
Retrouver de temps en temps les bistrots de Saint-Malo, quoi.
Yes. Voilà.
Merci encore à tous. Merci d'être venus si nombreux. À suivre, L'œil du tigre avec Philippe Collin. Vous écoutez France Inter, il est presque 18h.